Je le disais en début de journal, demain 21 juin, eh bien, ce sera l'été. Et pour fêter son arrivée, M. Jacques Lang, le ministre de la Culture, a eu l'idée d'organiser une vaste fête de la musique. Demain, entre 20h30 et 21h, vous êtes tous invités à montrer vos talents de musicien. Et puis après, vous pourrez aller faire la fête. Il y aura des centaines et des centaines d'orchestres un peu partout dans les rues des villes et des villages. Une manifestation qui s'annonce bien, si l'on en croit le ministre M. Jacques Lang. Nous l'écoutons.
Aujourd'hui, le grand hôte de Jacques Lang, invité à donner son pronostic par nos confrères de France Bleu pour la Coupe du Monde de football. Il a dit parier sur le collectif, un pari qui, s'il vaut pour le sport, doit aussi peser, prévaloir peut-être pour la culture, pratique individuelle et collective, car elle crée du lien social et structure l'espace public. Aujourd'hui, on ne va pas attendre de lui qu'il tacle ou arbitre les projets actuels de la rue de Valois, même si, en grand sélectionneur, il est un peu le Aimé Jacquet de la culture, mais qu'il nous éclaire sur les enjeux actuels des politique culturelle, de la décentralisation à l'architecture, en passant par l'audiovisuel. L'inventeur de la fête de la musique et des journées du patrimoine, actuel président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre donc de la Culture et de l'Éducation nationale, et notre invité. Bonjour Jacques Lang.
Bonjour.
On va écouter la suite de ce sujet qui vous introduisait. 1982, lancement de la première fête de la musique, un 21 juin bien sûr. Voilà ce que vous avez répondu aux questions du journaliste.
Ce sont des centaines de milliers de gens à travers la France, des petits, des grands, des musiciens amateurs, des musiciens professionnels qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. Des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Et je crois que cette immense armée des musiciens français montrera sa force ce soir-là.
Est-ce bien le rôle de l'État que d'organiser de telles fêtes? Jusqu'ici, nous n'y étions guère habitués.
Nous n'organisons pas, on dit simplement libre à chacun de témoigner par son instrument de musique de sa joie à voir l'été revenir.
On entend en ce moment le canon tonner un peu partout, on entend aussi les monnaies s'entrechoquer. Est-ce bien le moment d'organiser des fêtes?
Mais je crois que si on veut gagner les batailles contre la dépression, contre le chômage, pour la réanimation économique du pays, il faut avoir confiance en soi-même. Et il faut que les forces de vie, toutes les forces de vie, les forces de l'intelligence, les forces de la joie, les forces de l'expression, se mettent en branle. Au fond, la vie c'est un tout. Et l'économie et la culture c'est un tout. Et un pays morose, un pays déprimé, ce n'est pas un pays qui gagne les batailles économiques. Ce n'est pas en pleurant et en gémissant qu'on gagne les batailles économiques. C'est au contraire en croyant en nous-mêmes et en croyant aux forces extraordinaires d'un pays comme la France.
Alors la fête de la musique n'a pas, elle, toute seule arrêté les guerres, ni mis fin au chômage, Jacques Lang. Néanmoins, cette initiative, est-ce que vous la défendriez autrement aujourd'hui, ou est-ce que vous dites de la même manière, dans le climat actuel, dans le contexte actuel, on n'a plus que jamais besoin de culture?
Bien sûr que oui. Bon, je n'utiliserai peut-être pas les mêmes mots, mais ma conviction est restée inchangée.
Alors c'est étonnant ce que ce journaliste vous pose comme question, qu'on ne poserait plus aujourd'hui en 2018, comme si c'était devenu un acquis. Est-ce bien à l'État d'organiser cela?
Oui, on peut toujours se poser la question. D'ailleurs l'État n'a pas organisé, simplement il a donné, si j'ose dire, le là. Il a proposé cette idée, mais elle ne pouvait exister que si des citoyens eux-mêmes devenaient acteurs de l'événement. C'est ça quand même l'originalité, je crois, de l'événement, et qui fait qu'il est aujourd'hui devenu le bien commun de tous les Français. Les musiciens amateurs ou professionnels ou les autres sont devenus comme des co-auteurs, comme des co-inventeurs de l'événement.
À Paris, en France et partout dans le monde, où serez-vous, vous, jeudi 21 juin, Jacques Lang?
À l'Institut du Monde Arabe principalement. Nous avons préparé, non pas des spectacles tout faits, tout cuits, tout ficelés, mais des occasions d'improvisation et de découverte de jeunes talents, et notamment de jeunes migrants irakiens ou syriens.
Donc vous ne serez pas à l'Élysée pour le concert électro annoncé?
Si on m'invite, j'irai. Je me réjouis en tout cas que la musique électro, pour laquelle je me suis beaucoup battu à une époque où elle était attaquée de toutes parts par les officiels et diabolisée, soit entre à l'Élysée. C'est une bonne idée. Je félicite le président Macron de lui avoir ouvert les portes de l'Élysée. Et la parade techno que nous avons créée il y a quelques années était destinée précisément à donner droit de cité à une musique qui pourtant est née en France et qui pendant si longtemps a été diabolisée.
Bon, on parle beaucoup aujourd'hui de la French Connection, justement aussi en matière ou French Touch de musique électronique. Est-ce que le bébé, la fête de la musique, ce bébé a bien grandi pour vous ?
C'est quand on grandit, bon, il y a des croissances inégales, mais globalement, l'événement est à la fois a grandi, puisque c'est dans 140 pays. On le sait trop peu en France, de Shanghai à Los Angeles, de Berlin à Kinshasa. C'est des millions et des millions de gens qui y participent. Et dans le même esprit. Dans le même esprit que l'esprit d'origine, c'est-à-dire faire. Comme le disent nos amis américains qui ont créé la fête de la musique à New York, make music, do it, faites vous-même, F-A-I-T-E-S. Bon, il y a parfois des déviations, évidemment, il y a parfois trop de podiums divers, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que dans chaque village, dans les établissements scolaires, dans des hôpitaux, sur des places, l'événement est pris un tour, je dirais, toujours aussi spontané. Et les gens ont le sentiment de participer à quelque chose d'inhabituel. C'est pas un festival comme un autre. Parce que c'est comme si le temps était suspendu, comme si c'était leur événement. Edgar Morin avait écrit un très beau texte sur la fête de la musique en introduction à un livre publié par Le Seuil. Il parlait d'un acte civique. Et d'ailleurs, nous lançons cette année, grâce à une start-up, une vidéo mondiale qui va permettre à chacun de ceux qui le souhaitent, musicien ou qu'il soit, à Shanghai ou à Berlin ou à Paris, de poster une vue, une vidéo, et ainsi on aura le sentiment de participer à une communauté mondiale, une sorte de fête universelle, dans laquelle les gens sont eux-mêmes les acteurs principaux.
Un concert un peu sans frontières.
Un concert sans frontières, et j'espère que l'Élysée y participera.
Dans cette
vidéo mondiale.
Dans cette archive de 1982, Jack Lang, on vous entend attribuer déjà à la culture de haute qualité, voire de haute vertu. Aujourd'hui, la question reste de savoir, et c'était déjà d'actualité dans les années 80, si tout le monde y a accès, et si tout le monde y a accès de la même manière. Un plan culture près de chez vous vient d'être annoncé, c'était en mars dernier. Est-ce qu'à vos yeux, la culture est encore trop jacobine, Jack Lang?
Non, on ne peut pas dire qu'elle est trop jacobine. Bon, il y a des institutions nationales. Alors, elles sont à Paris, c'est l'histoire. Le Louvre, il n'est pas à Marseille, il est à Paris. L'Opéra est à Paris, la Bibliothèque nationale est à Paris. Donc, il est tout à fait légitime que l'État ait, comme vous le savez, on a consacré de grands efforts pour réaliser le Grand Louvre, pour réaliser une nouvelle bibliothèque nationale, une bibliothèque des arts. Ça ne pouvait pas se faire ailleurs. Par contre, on a créé l'École nationale de la photographie à Arles, qui est obligée de construire de nouveaux locaux parce que elle est devenue un succès international. On a créé le Centre national de la bande dessinée à Angoulême. Sans compter, les centaines de musées ont été rénovés, restaurés, les bibliothèques et le reste. Non, au contraire, je dirais, si on fait le tour de la France, ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point partout, il y a des initiatives, des créations. Non, ce qu'on peut dire, par contre, c'est pas la même question. C'est que il y a encore trop de personnes qui se trouvent à l'écart, où que ce soit, à Paris ou hors Paris. Et de ce point de vue-là, je continue à être un militant décidé, déterminé, en faveur de l'introduction, on a parlé à l'instant, éducation nationale, de l'art et de la culture dans l'école, comme nous l'avions fait avec Catherine Tasca en 2002. Il faut que, à l'avenir, l'art fasse partie de ce qu'on appelle les fondamentaux, au même titre que les mathématiques ou la littérature ou le reste. Et tout le monde sait que là où l'art est présent dans un établissement scolaire, tout change. La réussite des élèves, le climat de l'établissement, la capacité des élèves aussi à comprendre le monde. Et je ne comprends pas les réticences qui, depuis 10 ou 15 ans, font que les gouvernements marginalisent l'art et la culture à l'école.
Alors, l'un de vos successeurs, Jean-Michel Blanquer, à l'éducation, on a quand même fait une priorité, l'arrivée de la musique dans les écoles, de l'éducation musicale et artistique.
Ce n'est pas une priorité. À mes yeux, c'est un commencement. et je m'en réjouis. Prioriser, ça voudrait dire que ça figurerait dans les programmes, dans la formation des maîtres, dans les horaires. Ce n'est pas le cas. Par contre, je suis très content que Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer aient repris cette idée pour le chant choral de confier à un grand musicien, c'était le même à l'époque que nous étions au pouvoir, Dupin, qui fut naguère directeur du Conservatoire supérieur de Paris, le soin de mettre en place partout à travers la France la formation de chef de chœur. Donc c'est pris au sérieux. Et je m'en réjouis, c'est pour moi une satisfaction que de constater qu'au moins sur ce plan, il y a une volonté politique.
Alors plus d'un millier de musées, des associations aussi, il y a un maillage sur lequel le ministère dit pouvoir s'appuyer pour mettre en œuvre sa politique culturelle. Et d'ailleurs, le ministère ne parle pas de désert culturel, mais bien d'un problème de diffusion et d'accès aux collections nationales. Pour ce faire, la rue de Valois lance un catalogue des désirs pour favoriser l'itinérance des œuvres, des collections nationales, une liste de 500 œuvres qui, pour la plupart, n'ont jamais quitté leur lieu de conservation. On sait que la Joconde, a priori, n'y figurera pas, c'est trop compliqué. On sait depuis un peu plus d'une demi-heure que la Fondation Giacometti n'a pas été sollicitée dans ce cadre-là. On peut, en revanche, feuilleter ce catalogue en ligne et y trouver tout un inventaire qui ira de la tête de Kéros, Cycladique du Louvre, au sabre de Bernadotte du musée de l'armée, un Balthus, un Picasso, un manuscrit d'Aimé Césaire et même la robe noire d'Edith Piaf, Jack Lang. Est-ce que faire venir les œuvres partout en France à proximité de ces publics, ça c'est une bonne mesure pour vous?
Mais c'est une mesure que j'approuve d'autant plus aisément que...
C'était votre idée.
Nous l'avons réalisée tout au long des années, la redistribution même durable des collections nationales à travers les musées de France. Les musées de France sont alimentés et par leurs propres acquisitions, et par les dons, mais aussi par des dépôts de longue durée des musées nationaux. C'est une bonne chose que ce soit réaffirmé à travers la parole ministérielle.
Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, ce catalogue des désirs.
Non, je suis très content. Mais voilà, ça a été engagé depuis fort longtemps. Voyez ce qui se passe au Louvre-Lens, par exemple, par une présence d'œuvres de toute première qualité. L'exposition l'an dernier sur la Mésopotamie, qui était une pure merveille, et à laquelle, évidemment, le Louvre a apporté des œuvres de toute première qualité.
Vous avez déjà fait beaucoup. Est-ce que pour autant, il ne reste rien à faire? Ou est-ce qu'il faut, selon vous, aujourd'hui, mettre en œuvre un nouvel effort de décentralisation?
Non, l'œuvre n'est jamais accomplie définitivement. En plus, chemin faisant, il y a des déviations qui se produisent. Bon, si je devais en quelques mots résumer les choses, je dirais numéro un, l'art et la culture à l'école, vraiment, sérieusement et pas seulement marginalement. Deuxièmement, les industries de la culture. Aujourd'hui, on a le sentiment que globalement, l'État est trop passif face à une forme de dérégulation progressive, notamment dans le secteur privé. Et on engage une réforme de l'audiovisuel public. Je n'en connais pas le contenu, et pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas inclure aussi les chaînes privées et l'ensemble du secteur privé? Aujourd'hui, on assiste à un système de progressif, un progressif accaparement par les grands groupes multinationaux de la vie musicale en particulier. Quelle place pour les jeunes talents dans certaines radios? Quelle place pour les jeunes talents dans certains festivals qui ont été pris en main par des sociétés multinationales? Et sur ce plan, l'État a son mot à dire, ne doit pas accepter qu'il y ait ce phénomène de concentration. Je pense que c'est la pensée profonde de Françoise Nyssen, qui est une amie et que j'aime beaucoup, mais il faut prendre des mesures pour assurer la diversité, pour réguler l'ensemble de la vie, je dirais, musicale et télévisuelle et radiophonique.
Pour le spectacle vivant aussi, vous imagineriez...
Excusez-moi, j'en profite pour m'interroger. Il y a une inquiétude très grande sur le film d'animation, sur l'animation, qui a été une des grandes réussites des 30 dernières années. Nous sommes les premiers dans le monde. Et la remise en cause de France 4 peut avoir des conséquences néfastes sur la survie du film d'animation.
Il faut s'adapter quand même aux nouveaux usages.
Il faut
s'adapter peut-être aux nouveaux usages.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
à la manière dont les jeunes aujourd'hui consomment, regardent la télévision. C'est vrai que pour beaucoup aujourd'hui, pour la jeune génération, les moins de 10 ans notamment, pour qui France 4 avait une offre de dessins animés, ne savent même plus ce que c'est que la télévision. C'est presque une mythologie ancienne.
Mais c'est pas vrai tout ça. On raconte des histoires. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants je parle, qui regardent régulièrement à certaines heures à France 4 des films et des séries d'animation. Si vous retirez cette diffusion hertzienne en leur disant allez sur internet, croyez-moi, ce sera le commencement de la fin pour le film d'animation.
Ça vaut des engagements pour vous aussi de France Télévisions en termes de production de programmes d'animation, le fait qu'on retire cette chaîne hertzienne,
ou alors qu'on trouve un substitut, par exemple que l'on dise il faut un gouvernement dans ce domaine doit affirmer, décider et parfois imposer. Qu'on dise aux chaînes publiques, France 2, France 3, la 5, à telle heure de la journée, 4 heures ou 5 heures, je ne sais pas les horaires, vous aurez l'obligation de diffuser des films d'animation, notamment ceux qui sont produits par de remarquables producteurs et dessinateurs français.
Donc, sur l'audiovisuel public, vous proposez d'élargir la discussion au privé, en créant une vaste discussion qui mêlerait tous les partenaires et qu'on y réfléchisse ensemble. Est-ce que ça vaut aussi pour le spectacle vivant? Parce qu'on se souvient des mots de Régine Achondo en la matière, qui parlait de faire tomber le mur de Berlin entre le théâtre public et le théâtre privé. Est-ce qu'il faut absolument casser cette frontière entre le théâtre public, qui assume aussi une mission de service public, et le théâtre privé, qui fonctionne selon des règles commerciales différentes.
Oui, commercial et aussi aidé par l'État, parce qu'il y a un fonds de soutien au théâtre privé qui a été mis en place et régulièrement alimenté. Faut pas employer des mots genre mur de Berlin, franchement, casser les frontières. D'abord, indépendamment des pouvoirs publics, des liens existent. Aujourd'hui, Denis Podalydès, l'un de nos plus brillants comédiens, metteurs en scène et hommes de théâtre, je crois, a mis en scène, je n'ai pas encore vu, un spectacle dans un des théâtres privés de Paris. Donc inutile d'organiser des guerres de religion. Mais en revanche, il faut soutenir fortement le service public du théâtre, de la musique et de l'opéra.
Marie-Josée Malis, qui est metteur en scène et directrice du théâtre de la Commune à Aubervilliers, qui est aussi présidente du Syndéac, nous livrait récemment sur France Culture une critique de ce qu'elle qualifie de paternalisme à la française dans cette mise en œuvre de l'accès aux œuvres parisiennes sur tout le territoire. Écoutez.
Toute la décentralisation culturelle s'est inventée pour que la création se fasse sur place en s'appuyant sur une relation très étroite, très précise entre les artistes et la population. Bon, il va de soi que ça ne veut pas dire que les grandes œuvres ne doivent pas circuler, mais tout le sel, toute la richesse de la politique culturelle telle que nous la connaissons et dont nous sommes, si vous voulez, les continuateurs et j'espère les rénovateurs, s'appuyer sur l'idée que la culture, ça n'est pas seulement un accès, ça n'est pas un paternalisme qui consisterait à dire que ceux qui sont éloignés peuvent avoir accès à ce qui existe déjà. La culture, c'est faire ensemble, discuter ensemble, éventuellement créer ensemble, pour essayer de dessiner ensemble, de se donner les moyens intellectuels, sensibles, d'imagination, d'inventer le monde qu'il nous faut. En effet, si dans un budget restreint comme celui que nous connaissons, nous mettons l'accent sur la circulation des œuvres parisiennes vers, du coup, le retour des provinces, on sait très bien qu'à ce budget constant, tout ce qui va être l'encouragement à la création et même à de nouvelles modalités de rencontre entre les artistes et la population, c'est ça la décentralisation, tout ça va être minoré.
Le paternalisme dans la décentralisation, Jack Lang?
Oui, je ne veux pas non plus me laisser, enfermer dans des formules. Bon, je partage, en gros, le sentiment de la directrice du Centre dramatique national d'Aubervilliers. Bon, on devrait d'abord mettre en valeur le remarquable travail qui est accompli partout par nos institutions, centres dramatiques nationaux, scènes nationales, festivals qui, là où ils sont, s'efforcent de pénétrer profondément dans le tissu social. Mais je ne vais pas m'opposer effectivement à des décisions complémentaires qui assureraient une meilleure circulation des œuvres. D'ailleurs, cela a été fait à une époque avec l'ONDA, vous vous souvenez peut-être, qui peut-être survit aujourd'hui, je ne sais pas. Et puis il y a des coproductions qui permettent cette circulation. Encore une fois, la vraie démocratisation, ça consisterait à ce que l'école, lieu de résistance à la médiocrité, à la trivialité, à la marchandisation du monde, soit l'un des lieux principaux où les artistes, les créateurs, les pédagogues puissent pénétrer et donner aux enfants une chance de s'élever à la dignité, à la connaissance de l'art et de la culture. Et ça marche quand c'est entrepris, ça marche.
Donc plutôt que d'investir dans un pass culture, on investit dans l'école.
C'est peut-être ça la bonne solution. Un autre sujet, pardon.
Venons-en.
L'histoire du pass culture.
Venons-en pass culture. Juste pour ceux qui nous écoutent, elle a été annoncée, la création de ce pass culture à l'italienne, début mars dernier par Françoise Zitnissen, pour inciter les jeunes à fréquenter des lieux artistiques, à consommer aussi des biens culturels, art mineur, art majeur. Vous êtes un des premiers, Jack Lang, quand vous étiez rue de Valois, à avoir vraiment décloisonné cette question des genres et à avoir ouvert la culture à une pluralité des matières. Récemment, Jérôme Clément, dans son ouvrage « L'urgence culturelle », le rappelait qu'avec vous, on est passé d'une conception relativement classique de la culture, patrimoine, beaux-arts, création, à une conception beaucoup plus globale, incluant les pratiques amateurs, la cuisine, la mode, le design, des manifestations festives autour du cinéma, de la musique et bien d'autres encore. Ça, ce sont pour ces politiques qui ont été mises en œuvre avec François Mitterrand et vous dans les années 80. Aujourd'hui, ce pass culture, il fait polémique et il pose question, où commence la culture, où s'arrête-t-elle? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme définition aujourd'hui, à quel type de produit, à quel type d'événement artistique et culturel doit ce pass culture doit-il ou peut-il ouvrir les portes?
Bon, d'abord, je ne peux pas me permettre de parler de ce pass culture, je ne sais pas ce qu'il en est au juste aujourd'hui. Je sais simplement qu'en Italie, ce pass culture a coûté très cher et a fait l'objet de mille et un trafics. Par ailleurs, comment dire, ma philosophie, notre philosophie, celle des gens de culture, elle est quand même fondée sur un mariage entre l'exigence de création et de culture et l'exigence de pénétration dans tous les milieux sociaux. L'idée de passe culture, on verra bien au résultat, c'est quand même fondé sur une conception consumériste. Ce n'est pas ma philosophie. Et surtout, il ne faudrait pas que ce passe, mais je pense qu'on y songe, serve à venir... Tout à l'heure, je vous parlais des festivals aujourd'hui qui sont entre les mains de multinationales, qui font grimper les prix des contrats, les prix des places, qu'un tel passe serve à alimenter un peu plus ces marchands qui exploitent un grand nombre de spectateurs. Donc, si ce passe culture était destiné à encourager la fréquentation des musées ou des théâtres ou des centres d'art, oui. Mais pour l'heure, on ne sait pas. Personne n'est au courant et je n'ai pas envie de prononcer quelques paroles définitives que ce soit quand je ne sais pas.
Mais si on peut aller s'acheter des jeux vidéo avec le pass culture, pour vous ça pose problème?
Ça pose sans doute problème, en effet.
Pourquoi?
Mais pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a la technique et puis il y a le contenu. Tu sais que j'ai moi-même... Vous évoquiez ces années fondatrices. Les jeux vidéo n'existaient pas en France en 82. Et nous avons été les premiers à encourager la naissance des jeux vidéo. À Lyon en particulier. C'est devenu une explosion qui fait que la France, comme pour le film d'animation, est devenue une des premières nations dans le monde. Ça veut dire pour autant qu'on doit encourager les fabricants de jeux vidéo à obtenir je ne sais quel... qu'eux-mêmes fassent un effort pour offrir leurs jeux vidéo à des jeunes à des tarifs accessibles.
Jack Lang est notre invité jusqu'à 13h30. France Culture pour l'heure, il est 13h21.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Jack Lang, on se souvient dans les années 80, quand vous étiez ministre de la Culture, que déjà beaucoup s'inquiétaient de ce tout culture qui menacerait le génie français. Auteur de Dire la France, Cultures et Identités Nationales, 1980-1995, aux presses de Sciences Po. Le politologue Vincent Martini va nous aider à ouvrir le dernier chapitre de cette discussion. Dans son livre paru l'an passé, il revenait sur ses 15 années de politique culturelle. Il évoquait ce glissement entre le passage d'une culture dite de gauche à une culture dite de droite.
Dans les années 80, la gauche avait le monopole de la culture. On se rappelle François Lothar qui disait en 88, quand il quitte le ministère de la Culture, il dit « mais sur les questions culturelles, c'est insupportable, on ne peut pas penser quelque chose quand on est droite parce que c'est la gauche qui a ce monopole ». Et on voit qu'à partir de la fin des années 80, il y a une certaine droite, qui est à l'époque au Parti Républicain, à l'UDF, qui relie un peu Gramsci d'une certaine manière. Et ces gens-là sont les ancêtres des Buissons, enfin ancêtres, à l'époque ils discutent beaucoup, des Buissons, des Zemmours d'aujourd'hui. C'est des gens qui vont s'emparer de la culture, ils vont faire ce qu'a fait la gauche 10 ans plus tôt, s'emparer de la culture pour en faire une arme politique, une arme idéologique, encore une fois ce qu'avait déjà fait la gauche, mais dans un autre sens bien sûr, et ils vont comprendre, alors que la gauche un peu perd le sens de ce monopole, comprendre à quel point la culture nous permet de dire la France justement, de dire des choses sur notre pays, sachant que gagner une bataille politique, c'est d'abord gagner une bataille idéologique préalable, et c'est ce que disait Gramsci, c'est ce que nous dit Fillon à peu près tous les 15 jours, et je pense qu'il a raison.
On a depuis longtemps tous confirmé l'idée que la culture est encore un enjeu politique au sens premier du terme, mais est-elle aussi un enjeu idéologique? L'insécurité culturelle, c'est un thème qui a été porté notamment par le Printemps républicain. Est-ce qu'il y a et est-ce qu'il faut sauvegarder, selon vous, Jack Lang, une dimension identitaire dans la culture?
Ce sont des mots qui, pour moi, résonnent étrangement. Qu'est-ce que ça veut dire, identitaire? L'identité de la France, c'est cette extraordinaire capacité que notre pays a toujours eue à entremêler les arts, les religions, les cultures. Et si la France aujourd'hui est capable encore de parler un langage de l'universel, c'est parce qu'elle est fécondée, alimentée et nourrie par des cultures venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. L'identité de la France, elle est là. Elle réside dans cette aptitude exceptionnelle à se nourrir de tous ces apports et de tous ces affluents.
Et pourquoi, depuis plus de 20 ans, il y a cette tension entre la protection du patrimoine et la création, et les politiques de soutien à la création contemporaine?
Je ne comprends même pas, je ne comprends pas, si vous voulez.
Les deux sont compatibles.
Pour moi, c'est le même combat, le combat pour sauvegarder notre passé, notre histoire, encourager les jeunes talents, encourager la création, c'est un faux débat. Alors longtemps, en effet, certains hommes politiques pensaient que nous voulions abandonner le patrimoine au bénéfice de la création. Rien n'est plus faux. Jamais autant d'efforts n'avaient été accomplis en faveur du patrimoine pendant les années, j'allais dire.
C'est pour ça que notamment vous inventez les journées du patrimoine.
Mais oui,
journées
du patrimoine, et puis surtout les grands chantiers que nous avons lancés, les crédits qui ont doublé, et d'autres mesures, la création de l'école nationale du patrimoine, et tant d'autres mesures ont été prises. Je pense que ce sont de faux débats. Ce qui compte, c'est que les responsables politiques, en haut ou en bas, aient conscience que ce sont des trésors de beauté, d'imagination qu'il faut à préserver et renouveler. Et moi, je reste un homme de gauche profondément, mais en même temps, je place la culture et l'éducation au-dessus de tout. Et quand une personnalité de droite s'engage à fond, je suis heureux. Par exemple, lorsque je constate que le président des Hauts-de-France, cette région à laquelle j'étais lié à une époque, accomplit un travail remarquable, poursuivant d'ailleurs l'œuvre qui avait été engagée par son prédécesseur, le socialiste Daniel Percheron, je suis heureux que dans cette belle région, qui connaît la souffrance parfois, son président fasse cet effort pour la culture.
Vous dites, à l'époque, on a augmenté tous les budgets en matière de patrimoine. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on en soit arrivé à créer un loto du patrimoine? Alors certes, c'est une manière ludique, peut-être un peu gadget, de réattirer l'attention sur cette question. Mais est-ce qu'on n'a plus d'argent? Est-ce que l'État n'a plus suffisamment d'argent pour rénover, faire vivre, sauvegarder ce patrimoine français?
Je récuse totalement cette idée. pardon, d'évoquer encore des exemples anciens. Quand en 1983, la France a été obligée, parce que nous étions confrontés à une crise économique très grave, de mener une politique dite de rigueur et d'austérité budgétaire, trois budgets ont échappé à la rigueur et ont augmenté: le budget de la culture, le budget de la recherche, le budget de l'éducation. Et quand en 93 il y a eu la même chose, le budget de la culture a connu une amélioration. C'est précisément dans les périodes où il y a une crise que l'on doit faire un effort supplémentaire pour tout ce qui touche à l'esprit, éducation, culture, recherche scientifique.
Et justement, Jack Lang, votre nom est attaché à une autre loi très importante aujourd'hui encore dans les débats, celle du 1er août 81 qui fixe un prix du livre unique. Aujourd'hui, il y a un mouvement des auteurs en colère. La profession ne survivra pas sans prise en compte de ses spécificités. Si demain, on ne peut plus vivre de littérature, nous vivrons dans un pays fort différent. Tout le week-end, le dessinateur, auteur Johan Sfar a donné de la voix pour défendre le métier d'auteur signataire parmi tant d'autres, et notamment des auteurs plutôt chanceux, d'une lettre ouverte au gouvernement dans Le Parisien dimanche. Alors que plus de 40% des auteurs gagnent moins que le SMIC, leur situation, est-ce qu'elle vous interpelle?
Absolument.
Qu'est-ce
absolument.
Qu'on peut faire?
Et pardon, nous avions à une époque pris toute une série de mesures, mais elles ne s'avèrent pas suffisantes sur la fiscalité, par exemple, assurant l'étalement des revenus sur 3 ans, sur le statut social, sur les retraites. Mais aujourd'hui, des mesures doivent être prises. Et quand on parle auteurs, je pense aussi aux auteurs de bandes dessinées qui sont spécialement alors sacrifiés et exploités et qui méritent d'être mieux protégés et mieux encouragés. Oui, en effet, c'est un chantier. Je ne doute pas d'ailleurs que François Nissen, qui est à la tête ou qui était à la tête d'une très grande maison d'édition,
Actes Sud, pour ne pas la nommer,
prendra des mesures.
Il y aura une réunion de concertation jeudi sur ce régime social et fiscal des auteurs, avec en cause la hausse des cotisations et une protection sociale qui serait menacée. Est-ce que pour vous...
De même, si vous voulez, ça là vous m'interrogiez sur la présence de la musique électronique à l'Élysée. Je dis chapeau, bravo, je m'en réjouis. Enfin, le travail que nous avons accompli, que j'ai accompli en particulier moi-même pour assurer la reconnaissance pleine et entière de ces musiques, a bénéficié de la consécration suprême. Mais il faut savoir que dans le même temps, la protection des droits des auteurs de musique électronique n'est pas pleinement assurée. Et j'en discutais tout récemment avec le président de la SACEM. Puisse l'événement de l'Élysée permettre de prendre en considération la rémunération des auteurs de musique électronique.
Alors, quel est le problème en fait, Jack Lang? C'est-à-dire, on pense que tout ce qui est création aujourd'hui est un plaisir, une passion, plus qu'un métier. Les auteurs ne sont pas... écrire n'est pas réellement une profession. Bah, pourtant, on sait qu'ils sont très installés dans l'imaginaire collectif. On accorde une grande place à la littérature. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas défendre nos auteurs?
Je n'en sais rien, je ne peux pas vous répondre. Je pense que peut-être ceux qui, aujourd'hui, nous gouvernent n'ont pas pris conscience encore de tout cela, mais ce sont des personnes de bonne foi, ce sont des personnes de qualité intellectuelle, incontestablement. Le président de la République est un homme cultivé. François Nissen est une femme de haute culture, donc je ne doute pas, je ne peux pas douter un instant qu'ils prendront des mesures pour assurer une meilleure protection des auteurs, de tous les auteurs, pas seulement les romanciers, mais aussi les dessinateurs, les créateurs, tous ceux qui aujourd'hui souffrent souvent d'une exploitation inacceptable.
À suivre. Merci beaucoup Jack Lang et merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, Jenab Sangaré. Toutes les infos et le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceculture.fr.